Jésus livre ici la clé du royaume de Dieu, la clé de la vie éternelle, l'amour de Dieu et du prochain, le double commandement de l'amour. Mais il y a une particularité que nous pouvons relever, une particularité à l'évangéliste saint Marc, c'est que cette introduction du double commandement de l'amour est marquée par une mention « Écoute Israël ». Il ne dit pas comme en saint Matthieu, voilà le premier commandement, tu aimeras le Seigneur. Il commence par dire, écoute Israël. Alors on peut se dire, est-ce que c'est juste le désir de citer plus intégralement le livre du Deutéronome que nous avons entendu dans la première lecture? Peut-être, mais pas seulement. Si l'évangéliste saint Marc fait cette mention, écoute Israël, c'est qu'il y a un sens, c'est qu'il y a une portée, c'est qu'il y a une nécessité. Et de fait, nous avons déjà fait l'expérience de nombreuses paroles qui n'ont laissé aucune trace en nous. On a entendu, et c'est ressorti par là quasiment immédiatement. Et donc cet appel, écoute Israël, est un appel à une disposition, à une réceptivité pour que cette clé, justement, ce double commandement de l'amour, cette clé du royaume de Dieu, ne soit pas perdue. Que ce ne soit pas quelque chose qui, j'allais dire, traverse une oreille pour ressortir par l'autre. Alors il y a peut-être, justement, autour de ce « Écoute Israël », trois ou quatre points à relever. Le premier point, c'est que quand on dit à quelqu'un « écoute », on l'invite à une disponibilité, c'est-à-dire un peu à se transformer à un contenant. Imaginez un vase qui doit recueillir de l'eau. Il faut que si ce vase est déjà plein d'autres choses, il n'est pas disposé à accueillir ce qu'on veut lui donner, il n'est pas disposé à accueillir cette eau, elle va rapidement déborder et se perdre. Donc « écoute Israël », c'est d'abord un premier appel à faire de la place, à faire d'une certaine manière, on pourrait dire, un certain silence dans notre cœur, dans notre esprit. Et nous le voyons bien, quand nous sommes saturés d'informations, quand nous sommes saturés d'émotions, ben on n'est pas disponible. Ça vous est déjà arrivé, vous étiez plongé dans une chose que vous aviez à faire, ou bien il y avait une contrariété un peu forte que vous portiez, quelqu'un vous a parlé à côté, puis tout d'un coup il dit « pardon, excuse-moi ». Qu'est-ce que tu as dit déjà là, j'ai pas réussi à retenir. Il y a une disponibilité, se faire contenant, capable d'accueillir. C'est le premier point, un silence qui s'oppose à une saturation. Mais ce « écoute Israël », c'est aussi une bienveillance. Pourquoi ? Parce que parfois, j'allais dire, on se met soi-disant en position de réceptivité, mais notre âme, notre cœur est comme un mur lisse. Essayer d'accrocher quelque chose sur un mur parfaitement lisse, ben, ça tient pas, quoi. Ça marche pas. Il faut que le cœur puisse trouver une accroche, qu'il puisse y avoir des accroches dans le cœur pour que ce qui soit dit, justement, il demeure, pas pour que ça glisse et que ça s'en aille. Alors qu'est-ce qui permet que notre cœur ne soit pas un mur lisse ? C'est une disposition de bienveillance. Une disposition de bienveillance, c'est-à-dire que je me dis, c'est un effort, que ce que je peux entendre, ce que je vais entendre, a quelque chose à me dire. J'ai quelque chose à y trouver. Parce que vous savez qu'on est parfois dans des dispositions où on dit, bon, je te laisse parler, mais je n'en ai rien à faire, et de toute façon, qu'est-ce que je peux bien attendre de toi ? Et donc voilà, ça, je me suis mis en mur lisse, et à rien qui pourra accrocher. Écoute Israël, c'est, oui, un risque que l'on prend, une bienveillance que l'on prend par rapport à la parole qui est adressée. Mais au-delà de ce silence, cette capacité à recevoir, au-delà de cette bienveillance, il faut se rendre compte que notre capacité d'écoute a été blessée par le péché originel. Vous vous souvenez de cet épisode dans le jardin, à la Genèse, au chapitre 3. On nous dit que c'est après la chute que Adam entendit les pas de Dieu dans le jardin. Déjà chose extraordinaire, pouvoir entendre le pas de Dieu de cette façon familière. Parce que bien souvent, nous n'avons pas cette expérience dans la prière, c'est pas aussi familier, c'est pas aussi direct. Mais quelle est la réaction d'Adam à ce moment-là? Une joie de se dire son Dieu, le Créateur de toute bonté et de sa vie, s'approche? Non, il a peur. Il a peur et il se cache. Il se cache, il se dérobe et il se ferme. Nous portons les séquelles de cette blessure du péché jusque dans notre écoute, dans notre capacité à pouvoir écouter. Ce qui signifie que ce n'est pas simplement un acte de la volonté, ce n'est pas simplement « allez, je me prends en main et tout ira bien ». Il y a quelque chose de plus profond qui a été désorienté, désaxé. Et donc j'ai besoin d'une restauration, j'ai besoin d'une guérison sur ce point. Et la parole de Jésus, « Écoute Israël !» C'est aussi une parole de restauration. Parce que celui qui l'adresse, c'est le Dieu créateur et sauveur, le Christ Jésus. Et donc sa parole, elle est capable de faire ce qu'elle dit. Écoute Israël, c'est une parole qui nous rend capables d'écouter, qui vient restaurer cette capacité du coup à faire silence, à faire de la place, à accueillir avec bienveillance. Écoute Israël, c'est une restauration. C'est un don que le Seigneur nous fait. Un don que nous sommes appelés du coup à désirer, à aspirer pour le recueillir, pour nous en saisir, pour le laisser nous travailler en profondeur. Et puis, il y a un dernier élément que je voudrais évoquer. C'est pas simplement « écoute », mais « écoute Israël ». Alors tiens, on va dire, mais tiens, qu'est-ce que ça change qu'on n'ait pas dit simplement « écoute », mais « écoute Israël ». Quand on dit « écoute Israël », ça signifie qu'on ne va pas écouter simplement comme un individu, mais comme on va écouter comme quelqu'un au sein d'un peuple. Quelqu'un au sein d'un peuple. Alors, je ne comprends pas très bien là ce que vous voulez dire, quelqu'un au sein d'un peuple. Alors, essayons de prendre une image qui va nous permettre de toucher ça. Imaginez, c'est des parents qui partent avec leurs enfants, ils arrivent sur un lieu où ils vont être hébergés, et on va donner les consignes. Les enfants sont encore petits en âge, les parents vont écouter pas simplement pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Ils écoutent pas simplement pour eux comme adultes, mais ils écoutent aussi pour les enfants dont ils ont la charge et dont ils ont le soin. En se disant, tiens, voilà ce que j'entends, voilà ce que j'aurais à lui retransmettre, à lui expliquer, peut-être à mettre à sa mesure, que j'aurais vraisemblablement à lui rappeler. Et donc c'est une écoute qui n'est pas simplement tournée vers moi, mais c'est une écoute qui est ouverte aux soins des autres. Les autres, j'ai soin d'eux, et donc j'écoute aussi pour lui, pour ma relation avec lui, pour sa relation avec moi. Écoute Israël, apprendre à écouter en peuple. Et enfin, écoute Israël. Israël, c'est un peuple avec une histoire. C'est un peuple qui a une histoire. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Ça veut dire que on va accueillir cette parole, mais on ne le fait pas à partir de rien. On va l'accueillir au sein de notre histoire avec le Seigneur. Et je crois que c'est un atout dont nous ne tirons pas très souvent parti. On pourrait se poser la question, et je vous pose la question aujourd'hui, considérez-vous l'histoire d'Israël comme votre histoire? Considérons-nous l'histoire d'Israël comme notre histoire? Comme on pourrait dire l'histoire de notre famille? Parce qu'elle nous est donnée comme l'histoire de notre famille. Alors vous allez me dire, oui, ben, mais mon père, vous savez bien que déjà dans notre histoire, on n'en tire pas beaucoup parti. Hein. Nos histoires familiales sont souvent peu connues. Nous savons dire un mot de nos parents, de nos grands-parents, mais pour nos arrière-grands-parents, c'est déjà plus compliqué. Est-ce que nous savons où ils sont nés? Est-ce que nous savons ce que fut leur métier, où ils avaient étudié? Pas sûr. Alors l'histoire sainte. Pourtant, l'histoire sainte nous permet de demeurer dans l'espérance qui est un élément fondamental de l'écoute. Parce que lorsque le sentiment de notre cœur est saturé d'un « à quoi bon ?»« À quoi bon ?» Rien ne s'y accroche. Ce double commandement de l'amour peut nous sembler une belle idée, mais à quoi bon dans un tel contexte ? On peut être sidéré par l'agitation environnante, la pandémie qui n'en finit pas, la crise économique, les souffrances au travail ou son manque de sens, les incertitudes sur l'école, sa finalité et ses méthodes, le réchauffement climatique, la prise de conscience que nos ressources sont limitées sur cette terre, le vieillissement de la population, les abus dans l'Église, les querelles liturgiques, le peu de soutien fourni par la société à la stabilité des couples et des familles. Quand on fait la liste de tout cela et j'en passe, un goût d'effondrement peut envahir notre bouche et notre âme. Mais si nous possédons l'histoire sainte, si nous avons conscience de l'histoire de Dieu avec son peuple, alors nous aurons conscience que des heures sombres ont déjà été traversées. Un peuple à la nuque trop raide pour se convertir, à qui le Seigneur faisait pourtant méditer le sanctuaire de Silo, où l'arche avait résidé un temps autrefois, et il n'en restait plus rien à l'époque du prophète Jérémie. L'exil fut la sanction de l'endurcissement du peuple qui ne voulait pas écouter le Seigneur, un effondrement apparemment complet. Plus de terre, plus de temple, plus de roi. Le peuple exilé sur la terre de Babylone. Et au contraire, que voyait-il ? Le triomphe des Babyloniens qui louaient leur divinité pour les succès qu'il leur avait accordés. Mais le même Seigneur qui avait annoncé la ruine à laquelle on n'avait pas cru, annonçait aussi le relèvement. Et il tint parole alors qu'on ne voyait pas comment. Le peuple revint sur sa terre et son engagement dans la foi fut profondément réformé. Eh bien, ce que Dieu a opéré dans l'histoire, il est capable de le refaire. Ce que Dieu a déjà opéré dans l'histoire, il est capable de le refaire. Toute la prière d'Israël est bâtie sur ce principe. Nous t'invoquons, Seigneur, à partir de ce que tu as fait, à partir de ce que tu as dit. Si tu as guéri, c'est que tu es le Dieu qui guérit. Alors je te demande la guérison. Si tu as sauvé déjà, c'est que tu es le Dieu qui sauve. Alors je te demande le salut. Je te prends au sérieux à partir de ce que tu as révélé. Et donc, lorsque le Christ prononce ces mots « Écoute Israël », il renvoie à une histoire, à une expérience que le peuple a faite durant son histoire, une expérience de Dieu sauveur. Le double commandement de l'amour ne se reçoit pas comme une injonction venue de nulle part, mais se reçoit du Dieu qui a déjà manifesté un salut qu'on ne croyait pas possible. En ce dimanche, qui nous rapproche un peu plus de la fin de l'année liturgique et donc de la méditation sur la fin des temps, que le Seigneur nous fasse ce don de l'écoute, disponibilité et bienveillance. Qu'il nous ancre aussi dans l'histoire de son peuple pour que nous espérions fermement, car il nous a déjà manifesté sa gloire et il la manifestera encore. Amen.